Hélène Philippe pour le journal, bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. Des chars en pleine ville, des quartiers qui ressemblent à des zones de guerre. L'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth embrase la capitale libanaise et elle la replonge dans des scènes de guerre civile qu'elle pensait oubliées. 6 morts aujourd'hui, nous sommes sur place. Des écoliers se démasquent et d'autres le remettent. La Lozère, premier département à faire marche arrière, la faute à 2 clusters qui suffisent à faire exploser le taux d'incidence. Dans ce journal encore, cette attaque d'une violence inouïe en Norvège, l'enquête s'oriente vers un acte terroriste. Une audience animée au Conseil d'État sur la réforme de l'assurance chômage. Et puis le tracé des Tours de France, masculin et féminin, il devrait y avoir du spectacle. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, nous allons essayer de discuter ensemble avec vous, enseignants et parents, de ce qu'il est bon de dire et comment le dire à vos élèves demain lors de la journée hommage à Samuel Paty. On a aussi envie de savoir si vous avez changé des choses dans votre enseignement, si vous avez abordé des sujets que vous n'auriez pas abordés, si au contraire, vous avez renoncé à certains sujets. Venez nous le raconter, ça se passe au 01 45 24 7000.
C'est une enquête impossible et un pays au bord du gouffre. Un an après l'explosion du port de Beyrouth au Liban, le Hezbollah appelait les habitants de la capitale libanaise à manifester ce matin contre le juge Bitar qui a bien du mal à mener ses investigations. On lui refuse l'audition de ministre en poste à l'époque. Il est sous pression permanente. 2 fois déjà qu'il suspend son enquête. Aurélien Colli est notre correspondant à Beyrouth et il était dans la manifestation ce matin qui a rapidement dégénéré.
Dégage Bitar, tu es l'esclave des Américains, on veut un juge libanais. Slogan proféré devant le palais de justice par des partisans des 2 grands partis chiites. Le mouvement Amal du président du Parlement et le Hezbollah proche de l'Iran. Slogan à l'attention du juge Tarek Bitar qui persiste à vouloir auditionner des responsables politiques proches de ces 2 formations. On doit dire non à la politisation de la justice. Il suit un agenda fixé par l'extérieur. On est contre cette ingérence, explique Ali, convaincu que le juge est téléguidé par l'Occident, que son objectif est d'incriminer des responsables chiites et d'affaiblir le Hezbollah et l'Iran. Si on n'obtient pas son dessaisissement par le droit, on l'obtiendra par la force, met en garde Hussein en treillis et t-shirt noir, signe de son appartenance à l'avant-garde de l'un des 2 partis chiites. Samir Jaja, Sami Gemayel, ils ont câliné Daesh au Liban, ils ont câliné ceux qui ont fait l'explosion dans le port, tout ce qu'ils veulent c'est nous nuire, ajoute encore ce militants chiites, en visant pêle-mêle l'organisation terroriste sunnite État islamique et les leaders chrétiens libanais opposés au Hezbollah. À quelques centaines de mètres, des tirs éclatent, à la lisière d'un quartier chrétien qui était déjà la ligne de front pendant la guerre civile. Les partis chiites accusent des francs-tireurs chrétiens, leurs militants répliquent, l'armée se déploie et ramène finalement le calme. Journée sombre pour le Liban, où le spectre des violences confessionnelles a refait surface.
Aurélien Colli, depuis Beyrouth, au Liban, 6 morts, au moins une trentaine de blessés, c'est le bilan sans doute provisoire. La France appelle à l'apaisement et souhaite que la justice libanaise puisse travailler en toute indépendance. Les Libanais ont droit à la vérité, insiste le Quai d'Orsay. L'étranger, c'est aussi cette mobilisation massive en Géorgie. Des dizaines de milliers de personnes réclament la libération de l'ex-président Saakashvili qui est incarcéré depuis son retour d'exil début octobre et qui a entamé une grève de la faim. Et puis on en sait un peu plus sur le Danois qui a tué 5 personnes hier dans la ville de Kongsberg dans le sud-est de la Norvège. Un homme converti à l'islam est soupçonné de radicalisation, ce qui renforce la piste terroriste aux yeux de la police. L'homme, armé d'un arc et de flèches, a littéralement semer la terreur hier soir dans un quartier pavillonnaire. Le récit de Benjamin Illy.
À 80 km d'Oslo, il y a Kongsberg, environ 25 000 habitants, des rues charmantes, des maisons en bois, une communauté tout à fait ordinaire. Selon la maire de la commune, citée dans les médias norvégiens, elle est bouleversée évidemment par cette tragédie, selon elle, inconcevable. Kongsberg a vécu l'horreur hier soir, car l'un de ses habitants a pris un arc et des flèches de compétition et a ciblé les passants et les clients d'un supermarché. La police a été alerté à 18h12. L'individu a été interpellé à 18h47. Entre-temps, il a tué 5 personnes. Sur une chaîne de télévision locale, un témoin décrit les gens en train de courir pour sauver leur vie. Des images de guerre sont venues à l'esprit de cet habitant qui se confie à l'AFP. J'ai cru que c'était Kaboul. Un autre raconte comment l'un de ses amis s'est abrité derrière une voiture quand certains se précipitaient dans les maisons pour se mettre à l'abri. Leur agresseur s'appelle Espen Andersen Brotten. Des médias norvégiens ont découvert ces vidéos datant de 2017, publiées sur YouTube, où il apparaît, cheveux rasés, il se dit musulman, messager, et il lance un avertissement potentiellement menaçant.
Des experts psychiatriques devraient l'examiner demain et un juge se prononcera ensuite sur un placement en détention provisoire.
À 19h presque 6, Hélène, les pénuries mondiales de composants ou de produits de consommation sont telles que le FMI et les principaux dirigeants de la planète se saisissent du problème.
Réunion aujourd'hui, ils promettent de surveiller les pressions sur les chaînes logistiques. Il faut se rendre compte, plus de 8% du transport mondial est coincé dans des ports. Pas assez de main d'œuvre pour décharger les cargos. La reprise post-pandémie ne se fait pas à la même vitesse partout. Et ça se voit en cascade dans les concessions automobiles, moins de voitures et dans les magasins de bricolage, de chaussures, y compris des géants de l'ameublement comme Ikea, Agnès Soubiran.
En effet, même si 70% des produits vendus en France sont fabriqués en Europe, l'enseigne doit faire face à des pénuries de produits. Emma Réco, directrice stratégie et développement d'IKEA France.
Nous estimons donc à peu près à 5% les difficultés d'approvisionnement en ce qui concerne le meuble, et puis 15% de certains accessoires ou des produits. Alors nous avons trouvé d'autres moyens d'acheminer la marchandise, de transférer du maritime vers le fer par exemple, et de recentrer certaines productions pour être plus efficaces.
Des difficultés d'approvisionnement qui promet l'enseigne ne feront pas grimper les prix.
On continue de baisser nos prix, et donc c'est vrai qu'à court terme, on maintient notre positionnement en baissant les prix.
La crise a accéléré la digitalisation de l'enseigne. Le chiffre d'affaires du commerce en ligne a doublé en un an en France pour dépasser 1 milliard d'euros. Le PDG d'IKEA France, Walter Gannard, insiste sur la transformation de l'entreprise au cours des derniers mois.
On a optimisé les flux des produits, on a optimisé les productions. On s'est concentré pour certaines références clés et avec les alternatives, on trouvait des solutions pour les clientes.
Une transformation qui va se poursuivre avec la multiplication de points conseils en centre-ville, comme à Toulouse et Perpignan, et l'ouverture, d'ici un an à Paris, d'un magasin entièrement consacré à la seconde vie des meubles IKEA.
IKEA qui affiche un chiffre d'affaires global de 2,9 milliards d'euros, en hausse de 4% par rapport à l'année dernière, mais toujours sous son niveau d'avant-crise. La question des prix et du pouvoir d'achat, bien à l'esprit de l'exécutif à 6 mois de la présidentielle. Emmanuel Macron, à son tour, confirme qu'il y aura une réponse du gouvernement à la hausse des prix des carburants et une annonce à attendre dans les prochains jours. Le gouvernement qui se confronte une nouvelle fois aux syndicats sur la réforme de l'assurance chômage. Audience aujourd'hui devant le Conseil d'État sur les recours déposés cette fois par l'ensemble des organisations syndicales contre la mise en œuvre des nouvelles mesures au 1er octobre. Procédure en référé en urgence que vous avez suivie. Bonsoir Laurent Kramer.
Bonsoir.
Alors le représentant du ministère avait été un peu bousculé la dernière fois. Comment ça s'est passé? Aujourd'hui.
Eh bien, c'est un peu le jour de la marmotte pour les syndicats et le ministère du Travail. Vous vous souvenez ce film où Bill Murray revit exactement le même jour avec les mêmes échanges. Le décor n'a pas changé. Nous voici au même endroit, au Conseil d'État. Juste avant l'été, les syndicats ont obtenu gain de cause. Le Conseil d'État pointait alors l'incertitude économique qui empêchait d'appliquer la réforme de l'assurance chômage. 4 mois plus tard, rien n'a changé, pourtant, estiment les syndicats. Mais le gouvernement a malgré tout décidé d'appliquer sa réforme. Alors les débats reprennent. Y a-t-il une embellie économique qui justifie d'appliquer la réforme ? Oui, répond le gouvernement. En face, les 5 centrales tentent de faire cette démonstration que non, rien n'a changé avec de nombreuses études à la clé. Non, rien ne permet au gouvernement de penser que tout va mieux sur le front de l'emploi. Pas même cette étude de l'OFCE cette semaine qui indique une chute de l'emploi dès 2022. Au milieu de ces débats de courbes et de statistiques, le juge en référé a entre ses mains le sort 1,5 million de chômeurs. Impacté par la réforme, l'attitude du gouvernement est irresponsable, clament les syndicats.
Décision à attendre dans les jours qui viennent. Merci Laurent Kramer. C'est une autre réforme emblématique du quinquennat. La réforme de la fiscalité du capital, la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière. Cela devait permettre de relancer l'investissement dans l'économie, les PME. Eh bien, le ruissellement n'a pas eu lieu. C'est France Stratégie qui le dit, avec un recul de 3 ans, donc significatif. La réforme a plutôt encouragé le versement de dividendes. C'est un papier très complet à lire sur franceinter.fr.
Le masque tombe dans les écoles dans 12 nouveaux départements lundi.
Et tout l'inverse, en Lozère, les écoliers vont devoir le remettre parce que le taux d'incidence est remonté. Ça peut aller vite dans un département moins peuplé. Il suffit parfois d'un ou deux clusters pour faire bondir le taux. C'est exactement ce qui se passe en Lozère. 2 foyers dans des établissements scolaires. Dans l'école Sainte-Famille de Margevol, 19 cas de Covid, 10 classes sur 12 ont été fermées pendant une semaine. Tout le monde est revenu aujourd'hui. Saïd Makhloufi de France Bleu, Gare Lozère, est allé faire un tour.
Les uns derrière les autres, les enfants se dirigent vers la cantine.
Ah là, c'est masque obligatoire, hein.
On les enlèvera pour manger.
Eugénie est la secrétaire de l'ensemble scolaire.
Mais non. Vous savez que c'est à cause de vous que la Lozère fait la une de l'actu.
C'est pas que nous.
Mais vous en faites partie.
Et on en fait énormément partie, oui. Je pense qu'il y a eu beaucoup de laisser-aller par rapport aux parents. Ben, on a un peu oublié la Covid, quoi. On a oublié un peu les gestes barrières, je pense. Après, on est une école, hein. Il y a des tout-petits, des 2 ans, des 3 ans, c'est compliqué, c'est... voilà, hein.
19 cas de Covid détectés chez les enfants.
Parce que moi, j'avais le Covid.
10 des 12 classes sont fermées.
On avait une classe de CM1 et une classe de CP, on était deux.
Mais après, la classe de CP a fermé.
Oui, mais nous, c'était vraiment les résistants.
Aujourd'hui, les écoliers sont de retour, ils sont testés et portent le masque. Sophie Compron est la directrice de l'établissement.
Important de préciser que les cas ont été détectés avant que les enfants de primaire n'enlèvent le masque.
Tout à fait. Premier cas que l'on a eu, c'était donc le jeudi 30 septembre. Et le lundi 4 octobre, quand nous devions enlever les masques, nous ne les avons pas enlevés par précaution. Et c'est ce jour-là où c'est que des cas sont apparus, voilà, le plus nombreux et qui ont entraîné la fermeture de plusieurs classes.
Un autre établissement scolaire du secteur a connu une situation similaire. Ces deux clusters expliquent en partie l'explosion du taux d'incidence sur le département.
Et pour accélérer la campagne de la troisième dose, le rappel vaccinal, la menace de la ministre du Travail, ceux qui sont éligibles et qui ne la font pas pourraient perdre leur passe sanitaire. La pandémie, on le sait, a perturbé l'accès aux soins. Ça a eu des conséquences sur la tuberculose, le nombre de décès en hausse pour la première fois depuis plus de 10 ans, dit l'OMS. Tous les spécialistes s'accordent à le dire, les algues verte en Bretagne. Les échouages ont été records cette année. Un fléau et un sujet qui fait énormément débat dans la région. Une famille se bat pour faire reconnaître la responsabilité des algues vertes dans la mort d'un chauffeur qui en transportait. Il est décédé d'un infarctus en 2009 à Binic, dans les Côtes d'Armor. Sa famille souhaitait voir reconnue une faute inexcusable de l'employeur. La justice vient de la débouter. Joanne Moison est à Saint-Brieuc.
Le 22 juillet 2009, sur la route entre Lantique et Binic dans les Côtes d'Armor, Thierry Morfoise, 48 ans, fait un malaise cardiaque au volant de son camion après avoir déchargé 3 bennes d'algues vertes en putréfaction sans masque de protection. Il s'effondre en sortant de sa cabine, les médecins ne peuvent le ranimer. Depuis ce jour, ses parents et sa fille tentent de prouver que l'hydrogène sulfuré, le gaz toxique dégagé par les algues en décomposition, est à l'origine du décès. Ils pointent aussi les responsabilités de l'employeur, qui malgré les risques connus n'avait pas pris de mesures pour protéger le chauffeur. Pas de masque, pas de détecteur de gaz. Aujourd'hui, la justice reconnaît, comme en 2017, qu'il s'agit d'un accident du travail, mais n'établit pas de lien entre les algues et le décès. Impossible de démontrer que l'exposition au gaz toxique a causé les lésions cardiaques, explique le tribunal. Impossible également de dire qu'un masque de protection aurait pu éviter la mort de Thierry Morfoise. La famille envisage de faire appel de ce jugement.
Joanne Moison de France Bleu Armorique. La justice qui ordonne à l'État d'agir dans ce qu'on appelle l'affaire du siècle pour réparer ses engagements non tenus en matière de réduction des gaz à effet de serre. Les juges donnent à l'État jusqu'au 31 décembre 2022 pour agir.
À 3 ans des Jeux Olympiques, il faut en faire plus pour le sport.
C'est le message aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État était ce matin sur le chantier du village des athlètes en Seine-Saint-Denis et ce soir à Poissy pour un match de football. Un périple pour quelques annonces. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Des investissements dans les équipements avant tout.
Oui, encore une annonce, un chèque de 200 millions d'euros, dont 100 millions assurés pour l'année prochaine. Emmanuel Macron parle d'un énorme coup d'accélérateur, ses opposants d'un rattrapage après plusieurs années sans nouvel investissement. Objectif, co-construire avec les collectivités 5000 équipements sportifs de proximité, dont 1000 terrains multisports, 1000 dojos ou salles de sport de combat, 500 petits terrains de basket, 500 skateparks, de quoi accompagner la dynamique des JO. Le chef de l'État a constaté que le chantier du village olympique avançait bien. Pour ce qui est de la course aux médailles, c'est plus incertain après le bilan décevant de Tokyo, 33 médailles. Emmanuel Macron en aimerait le double pour être dans le top 5 mondial.
Et puis il y a la photo de pré-campagne là en ce moment, on vous entend bien entouré Maxence. Emmanuel Macron a enfilé le short.
Et oui, dans le stade Léo Lagrange, short blanc, maillot bleu ciel, numéro 3 dans le dos, image complètement inédite. Jamais un président en exercice n'avait osé un tel coup de communication, enfiler les crampons pour entretenir l'image d'un homme jeune et dynamique, prêt à jouer sur tous les terrains et à tous les postes. Étudiant à l'ENA, il était arrière-gauche.
Le voici ce soir, centre droit, tiens tiens, milieu de terrain défensif, précise l'Elysée. Il a marqué à la 8e minute sur pénalty, comme Valéry Giscard d'Estaing en 74, mais lui n'était que ministre candidat. En face, les soignants de l'hôpital de Poissy-Saint-Germain-en-Laye n'osent pas le toucher, aucun tacle, à peine quelques dribbles. Faut dire que ce serait dommage qu'Emmanuel Macron arrive demain avec des béquilles dans la cour d'honneur des Invalides pour l'éloge funèbre à Humer Germain. Et oui, il ose ce grand écart du joueur de foot au garant de la mémoire demain. Il va même organiser une troisième mi-temps, un dîner à l'Elysée tout à l'heure avec 42 Pires et 2 Sailly. Mais si Emmanuel Macron mouille le maillot, assure un de ses proches, c'est juste pour vanter et bien fait du sport.
Évidemment, Maxence Lambrec avec les moyens techniques d'Éric Audra. Écho de campagne encore, tiens, avant le congrès des LR en décembre et à l'inverse de Xavier Bertrand, Valérie Pécresse reprend sa carte au parti LR qu'elle avait quitté après le fiasco des européennes il y a 2 ans. Une question de cohérence, dit-elle, elle veut jouer collectif et demande à tous les membres de son parti libre de faire de même. On parlait des JO à l'instant, derrière les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot, il y a le Tour de France cycliste, le 3e événement mondial le plus suivi. Les organisateurs viennent de dévoiler le parcours de l'édition 2022 du 1er au 24 juillet. Il n'est jamais parti d'aussi loin, départ donné à Copenhague. De grands moments en perspective, la planche des belles filles, le retour de l'Alpe d'Huez. Bonsoir Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir Hélène.
Alors ce tracé plaît-il aux joueurs, aux coureurs ?
Alors, pour Tadej Pogacar, double vainqueur et tenant du titre, de toute façon, il n'y aura pas d'étape clé. Et ce tour n'est pas fait, n'est pas taillé pour lui, nous l'a dit tout à l'heure. Guillaume Martin, premier Français de la dernière grande boucle, a dit qu'il fallait être fort partout cette année, comme les autres années. Ça, c'est impensif, mais c'est exact. Et puis, il y a Julien Alaphilippe qui souhaite profiter de la première semaine, comme il l'a fait lors des 3 dernières années, pour revêtir le maillot jaune, avec notamment les 3 jours au Danemark, et puis les pavés, notamment entre Lille et Arambert, et puis une arrivée au sommet de la planche des belles filles. Julien Alaphilippe.
Une première semaine qui s'annonce palpitante avec différents terrains d'expression, contre-la-montre, étape de bordure, des pavés, arrivée puncher, voilà, ça va être vraiment une première semaine. Il y aura du mouvement dans tous les cas, ça c'est sûr. Et pour le reste, j'ai hâte de faire des recos, d'étapes et de voir un peu ce qu'on va pouvoir préparer pour ce tour.
Alors, vous l'avez dit, Hélène, il y aura aussi l'Alpe d'Huez sur le même tracé qu'en 86. Ino Lemon, main dans la main, vous vous en souvenez certainement. Le massif central avec la montée dite Jalabert à Mende. Les Pyrénées avec une étape à Hautacam qui pourrait être décisive, soit le contre-la-montre de la veille des Champs-Élysées à Rocamadour.
Et la particularité cette année, Jean-Pierre, c'est que l'épreuve féminine est de retour après 12 ans d'absence quand même.
Oui, avec un départ qui sera donné sur les Champs-Élysées le même jour où les hommes arrivent. Ça, c'est pour l'exposition médiatique. Et puis Cap à l'Est avec la traversée des vignobles de Champagne par des chemins blancs. La planche des belles filles aussi pour l'arrivée finale. Et une dotation bien moins importante que celle des garçons. Mais l'heure n'est plus aux polémiques, tempère Audrey Cordon-Ragot, l'une des meilleures françaises de ces dernières années.
L'équité avec les garçons, on la voudrait tout de suite et le plus rapidement possible. Il faut être honnête, il faut être aussi objectif sur ce qu'on peut apporter médiatiquement, sur ce qu'on peut apporter aux sponsors qui nous suivent aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui on n'a pas la valeur marchande des hommes et qu'il faut se contenter de ce qu'on a, c'est pas assez. Je suis complètement d'accord avec ça, mais c'est la loi du marché et malheureusement on en dépend. Donc c'est ce Tour de France là justement qui va faire, je pense, le tremplin pour une nouvelle ère.
Une épreuve tremplin qui sera retransmise à la télé 2h30 par exemple par France Télévisions chaque jour et à l'international.
Merci beaucoup Jean-Pierre Blimeau. Allez, un conseil ce soir à la télévision, c'est sur France 3. Ce documentaire Mon temps est à nous, écrit par Yves Jelan et Vincent Josse. On célèbre ces jours-ci le centenaire de la naissance de Mon temps. Ça valait bien un film tout en archives, Amélie Perrier.
C'est l'histoire d'un fils d'immigré italien, Yves Olivi, et de sa rage de sortir de la misère marseillaise. Voilà ce qu'il répond quand on lui demande d'où vient son nom de scène.
C'est quand j'étais jeune, ma mère, qui a toujours gardé son accent italien parce qu'il est de la Toscane, elle m'appelait par la fenêtre quand je jouais dans la rue avec les autres gosses et elle me criait Ivo Monta.
L'histoire du chanteur d'abord qui enchaîne les succès malgré de gros problèmes de rythme. Un délice de mauvaise foi quand il accuse son pianiste, Bob Castella, qui tente tant bien que mal de le remettre dans le tempo.
Et on l'a écrasé,
la maison s'est arrêtée,
et le printemps nous a salués, voilà.
Parce que vous sautiez toujours, la maison s'est arrêtée.
Non. Pas,
Parfois, autour de moi, je rends les gens pas très heureux, quelquefois, parce que c'est pas de ma faute. Mais le monstre qui est en scène, je ne peux pas appeler ça autrement, demande beaucoup, exige beaucoup.
L'histoire d'un acteur de cinéma ensuite, un peu gauche à ses débuts, jusqu'au magnifique César et Rosalie de Claude Sauté avec Romy Schneider.
Je ne fais pas des petits dessins dans les coins, moi. Je gagne de l'argent. De l'argent.
Très chic. Refais ce geste.
C'est enfin l'histoire de l'amoureux de Simone Signoret, mais des accusations d'agression sexuelle lancées par sa fille Catherine Allégré, il n'est jamais question ici, car Yves Jolan le revendique, Montand est son héros, un homme qui l'aime passionnément, son film et sa déclaration.
Montand est à nous, d'Yves Jolan, écrit aussi par Vincent Josse, notre cher Vincent Josse qu'on connaît bien ici, diffusé ce soir sur France 3.
Et qu'on embrasse. Merci beaucoup Hélène Filly, évidemment, à demain. Nous, on reste ensemble pour le téléphone sonne, on va parler des mots que les enseignants choisiront demain pour partager avec leurs élèves la mémoire de Samuel Paty, 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir vos véhicules. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, les experts Euromaster sont partout au service de votre sécurité.
Et Elodie Calac, petite dégradation au nord.
Oui, de la pointe bretonne vers la Normandie, le nord de la Seine, ce sera nuageux le matin, surtout sur le nord Pas-de-Calais avec quelques gouttes en prime. L'après-midi, ces nuages gagneront également la région parisienne, le nord de l'Alsace. Une averse ne sera pas exclue. Sur le Languedoc-Roussillon, là, les nuages seront nombreux le matin, mais ils se décaleront vers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'après-midi, ils viendront contrarier le soleil du matin. Et puis partout ailleurs, vous aurez du soleil, un petit peu voilé tout de même, et puis contrarié par les brouillards le matin, mais ça ne durera pas.
Et un peu plus frais quand même demain matin, Élodie.
Souvent 1 à 6 degrés demain matin en effet, et puis un peu plus en allant vers les côtes et vers le sud-ouest, 5 à 11 degrés. L'après-midi, on aura quelques degrés de plus, 15 degrés à Metz, 16 à Lille, 18 degrés à Paris, Rennes, Poitiers et Lyon, 20 degrés pour Bordeaux, Montpellier, Nice et 22 à Toulouse ou à Bastia.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.